Géopolitique, Daniel Grillon.
L'Iran frappe à la porte du commerce international et mondial et son peuple a soif de consommer. Que veulent-ils nous acheter? Que veulent-ils nous vendre? Le pays a-t-il une stratégie économique au service de son influence diplomatique? Nous sommes plus que jamais en géopolitique cette semaine, mais à travers l'économie, tout est économie au final. Nous allons pour cela écouter l'avis de trois économistes françaises et iraniens de premier plan. Mais avant de vous retrouver, mesdames, messieurs, écoutons donc le premier ministre des Affaires étrangères français à mettre les pieds à Téhéran depuis 17 ans.
C'est vrai que la France a été très présente ici, et puis pour toute une série de circonstances que chacun a à l'esprit, elle a été moins présente, mais avec la nouvelle donne, la levée des sanctions, la France a l'intention, si l'Iran le veut bien, d'être davantage présente par ses entreprises qui sont au plus haut niveau dans le monde.
La France davantage présente par ses entreprises. Premier ministre des Affaires étrangères à mettre les pieds à Téhéran depuis 17 ans. Ferhadoun Kavan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Paris 5. Vous êtes iranien. Quand vous entendez Laurent Fabius à Téhéran comme ça, ça vous fait quoi d'abord?
Écoutez, d'abord, il insiste à juste titre sur les liens économiques entre l'Iran et la France, qui sont des liens très anciens, mais qui se sont développés en particulier après la révolution islamique. Parce que la révolution de 1979 a mis fin à la présence, disons, durable et très forte des États-Unis en Iran, et par la suite les pays européens ont pris en quelque sorte la place dans une large mesure des États-Unis. Et par la suite, on a constaté progressivement avec les difficultés, les tensions apparues dans les relations entre l'Iran et la communauté internationale et la communauté économique internationale en particulier, que progressivement, les Européens également ont eu beaucoup de difficultés pour continuer leurs relations avec l'Iran et les Européens ont été remplacés progressivement par les Asiatiques, par les Chinois, par les Sud-Coréens, mais aussi par la Turquie. Alors, nous assistons aujourd'hui en quelque sorte au retour de l'Europe sur la scène économique iranienne, en attendant probablement, ce n'est pas exclu, un jour, le retour, le grand retour des États-Unis.
Sébastien Regnault, bonjour.
Bonjour.
Vous vivez en Iran depuis des années, vous y observez le monde économique, vous êtes l'auteur d'une thèse d'ailleurs sur l'industrie iranienne et vous êtes chercheur associé au CNRS. Quand vous écoutez, vous, Laurent Fabius, relancez finalement la présence française, vous, ça vous évoque quoi?
Bah, c'est une bonne nouvelle. On attendait ça depuis longtemps. Le dernier ministre des Affaires étrangères à s'être rendu en Iran, c'était le Dominique de Villepin. C'était il y a plus de 10 ans. Là, on attendait ça parce que les entreprises françaises ont des gros potentiels à développer en Iran. Comme soulignait mon prédécesseur, il y a quand même une relation très forte entre la France et l'Iran, qu'on sous-estime souvent en France, d'ailleurs. Une attente très forte des entreprises iraniennes à l'égard du savoir-faire français. Et là, je pense que toutes les entreprises françaises sont maintenant sur les starting blocks pour développer leur potentiel sur ce marché iranien. La réputation des entreprises françaises en Iran est exceptionnelle. C'est-à-dire que, bon, déjà, la petite anecdote, quand vous allez en Iran, la première chose que vous observez, c'est que pratiquement la moitié du parc automobile est française. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que pratiquement une voiture sur deux en circulation à Téhéran est une Peugeot ou une Renault. Donc la visibilité des entreprises françaises est très forte en Iran. Et ces partenariats industriels ont été développés dans les années 90. Si vous voulez, la France n'a jamais laissé tomber l'Iran. C'est-à-dire que là où les États-Unis ont vraiment abandonné l'Iran après la révolution, la France est toujours restée, a toujours gardé un pas dans ce pays et a toujours su un peu passer entre les gouttes des sanctions, a essayé d'avancer dans les projets, etc. Et tous ces partenariats industriels sont maintenant parmi les plus vieux qu'il existe en Iran.
Alors, un point. La géopolitique, c'est aussi de l'économie. Qu'est-ce que peuvent faire les Iraniens? Et d'abord le pouvoir à Téhéran, de ce retour espéré de façon massive de leur économie dans la place mondiale. qu'est-ce qu'ils peuvent en faire?
Alors, il y a deux aspects. Il y a les grands contrats, ce que j'appellerais les grands contrats, c'est-à-dire dans l'aéronautique, dans le transport aérien, par exemple l'achat de Boeing ou d'Airbus. Il faut remplacer une centaine d'appareils. Vous imaginez les contrats qui peuvent être signés dans ce secteur d'activité.
Et qui dit contrat dans ce secteur d'activité dit relation diplomatique forte. Là, on est vraiment dans de l'influence.
Voilà. Là, ça se situe au niveau ministériel. C'est-à-dire que là, c'est des décisions stratégiques pour l'Iran. C'est-à-dire que autant il y a toute une économie, j'allais dire de PME, de PMI, qui peuvent se développer, qui peuvent développer des partenariats avec les entreprises locales iraniennes. Autant il y a les grands contrats où là, ça relève de décisions stratégiques qui se situent au plus haut niveau de la hiérarchie des pouvoirs en Iran.
Levier d'influence très fort.
Levier d'influence très fort et surtout avec l'expérience iranienne. C'est-à-dire que pendant 30 ans, les Iraniens qui avaient dans leur flotte que des Boeing n'ont pas été capables de faire du remplacement de pièces détachées. C'est-à-dire que à cause des sanctions, à cause des embargos, les Iraniens se sont retrouvés en pénurie de pièces détachées pour la maintenance de leurs appareils. Donc cette expérience-là reste en travers de la gorge des Iraniens et je pense que ils vont diversifier leur parc d'avions entre les Européens et les Américains pour pouvoir, si à l'avenir il venait à y avoir des problèmes de diplomatiques entre l'Iran et le reste du monde, pour qu'ils aient toujours une possibilité de faire voler leurs appareils.
C'est la même thématique qui a vu la France vendre des Rafales à des pays où on pensait pas les vendre finalement.
Voilà, c'est ça.
Pour mettre fin au monopole des Américains.
Voilà, c'est ça. C'est là, il y a une diversification. Et là, l'Europe a tout son rôle à jouer. Les États-Unis, c'est un peu trop loin. Comme je dis souvent, entre les États-Unis et la Russie, c'est trop long, si loin, si proche, quoi. Les États-Unis, c'est un peu trop loin. La Russie, c'est un peu trop proche. Il y a un juste milieu qui est l'Europe. Et je pense que là, l'Europe a son rôle à jouer. Le deuxième secteur d'activité dans lequel il y a vraiment de grands contrats à développer, c'est évidemment le secteur de l'énergie. Où là, on va pouvoir développer des partenariats sur du long cours pour la distribution de gaz et de pétrole vers des pays que l'Iran choisira, vers l'Europe notamment. Il faut savoir qu'avant les sanctions, 20% des hydrocarbures iraniennes partaient vers l'Europe. Donc 20% c'est pas peu, et l'Iran reste avec ses deuxièmes réserves de gaz au monde, les deuxièmes réserves de pétrole au monde, l'un des acteurs majeurs dans ce secteur. L'un des acteurs majeurs qui peut, pour l'Europe, et c'est très important pour les Européens, qui peut limiter notre dépendance à l'égard du gaz russe. Parce que vous savez sans doute, on a une très forte dépendance à l'égard du gaz russe, qui font un peu leur loi en Europe sur la distribution de gaz. Et le seul pays qui nous permettrait de contourner cette dépendance, c'est l'Iran.
Feridoun Kavan, un petit commentaire.
Oui, alors je voulais dire qu'il y a deux difficultés majeures qui pèsent sur l'économie iranienne, et l'Iran souffre effectivement de ces deux difficultés. C'est une économie fortement étatiste. Donc le poids du secteur public dans l'économie iranienne est extrêmement fort. Et d'autre part, la deuxième difficulté, c'est que c'est une économie très liée au pétrole et dans une certaine mesure aussi au gaz. Donc l'Iran souffre notamment de sa dépendance à l'égard du pétrole. Et par conséquent, l'objectif des Iraniens, c'est de diversifier leur économie.
Alors il y a un mot qui m'intéresse. Sébastien, vous l'avez prononcé, Sébastien Ragnaud, et j'aimerais votre réaction, Feridoun Kavan. Choisir ses clients, vous avez dit. L'Iran va choisir ses clients.
Effectivement, mais justement, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fonction de la diversification de l'économie iranienne, l'Iran veut diversifier son économie, devenir un pays qui exporte bien entendu le pétrole et le gaz, mais en même temps des produits autres que le pétrole et le gaz, devenir en quelque sorte un peu comme la Turquie. Donc l'Iran choisit ses partenaires à condition que les sociétés occidentales qui s'installent en Iran puissent aider l'Iran à diversifier son économie, à ne pas considérer uniquement ce pays comme un marché.
Mais quand on dit choisir ses clients, ça devient un levier, parce qu'après tout, des gros contrats, ce sont des emplois dans tous les pays, notamment en France. Quand vous achetez des Airbus, vous avez de l'emploi. Quand vous achetez des Renault, des Peugeot, vous avez aussi des enjeux d'emploi. Donc le levier d'influence de l'Iran semble évident dans ce cas.
Effectivement, l'Iran, à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, disons qu'il y a une très forte concurrence sur le marché iranien. Et je dirais que, dans un premier temps, la concurrence sera entre l'Europe et l'Asie, mais également entre les sociétés européennes. Par exemple, dans l'industrie automobile, on le voit déjà, il y a une très forte concurrence entre les Allemands et les Français.
Alors, l'industrie automobile, c'est intéressant. Carlos Ghosn, PDG du groupe automobile Renault-Nissan, tout marché s'ouvrant à nouveau dans le monde lui fait sortir sa calculette. Écoutez.
C'est un marché qui est extrêmement prometteur, puisque même avec les sanctions, c'est un marché qui produit et vendu 600 à 700 000 voitures. Le potentiel à court terme est d'1 500 000. Donc dès que les sanctions sont levées, nous nous attendons à ce qu'il y ait un boom sur les ventes de voitures.
Voilà, ça c'est clair, les voitures. Ah, vous le disiez, Sébastien Regnault, les voitures françaises. Et entre parenthèses, d'après ce que je comprends, les Peugeot, il y en a beaucoup, j'ai marqué Peugeot, mais c'est pas forcément que du Peugeot. Il y a beaucoup de Chinois derrière, voilà, vous confirmez, vous les voyez tout le temps, ces voitures.
Voilà, il y a des pièces qui sont Peugeot, mais il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est, enfin, la Peugeot 405, puisque c'est pour parler d'elle, qui est très présente sur le marché iranien, est pratiquement 100% intégrée en Iran. C'est-à-dire que les Iraniens sont capables de produire la 405 en toute autonomie, sans la France.
Petite indication au passage. La moitié des voitures en Iran a plus de 25 ans.
Voilà, mais le parc automobile, ce que j'ai constaté ces dernières années, est en train de d'évoluer extrêmement vite. La Pécan, qui était l'espèce de vieille voiture iranienne, qui était présente, très présente, il y a encore 10 ans, sur toutes les rues iraniennes, a pratiquement, même complètement disparu de la circulation. Donc le renouvellement du parc automobile iranien va très vite.
Fariba Adelka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directrice de recherche au Centre d'études de relations internationales.
Anthropologue. Pas économiste.
Oui, voilà. Surtout mais pas. Surtout pas. Ah, ça vous gêne, hein. Mais vous adorez parler d'économie.
J'ai un grand spécialiste à côté de moi, j'ai honte d'être économiste, je ne le suis pas.
Ce bras de levier de l'Iran à travers l'économie, vous le mesurez comment, vous ?
Comment faut-il le résumer ? Depuis 2-3 jours, on ne cesse de dire tout le besoin qu'a l'Iran à son ouverture sur l'Asie centrale. Donc l'Iran, c'est un pays d'avenir, donc pour tout ce qui est exportation de tout. L'Iran a besoin de tout, disait récemment Monsieur Fabius. Et que la société iranienne, il a la soif de consommation qu'on peut expliquer de plusieurs façons. Je crois qu'on va l'expliquer dans l'émission. Donc voilà, c'est un pays d'avenir pour la consommation.
Cette soif de consommation, nous en parlons des voitures. Vous en parlez des grands contrats. Et puis, il y a aussi tous ces petits contrats qui vont arriver pour les petites choses de tous les jours. Qu'est-ce que veulent consommer les Iraniens aujourd'hui ? La classe moyenne, notamment, bref, les gens comme vous et moi, qu'est-ce qu'ils veulent consommer aujourd'hui en Iran ?
Finalement, au quotidien de tout, d'abord parce qu'il y a des politiques d'incitation de l'État à cause des zones spéciales ou des zones franches qui font que finalement les gens vont acheter soi-disant pour moins cher et donc ils ne cessent d'acheter. Ensuite, il y a toutes ces pratiques au quotidien de sociabilité en Iran d'aujourd'hui, que ce soit les pratiques religieuses ou autres, font que les gens reçoivent beaucoup, c'est une pratique de sociabilité. Et les pratiques religieuses, curieusement, sont aussi les pratiques d'ascension sociale, donc pour montrer que vous avez réussi, il faut consommer. Donc, ça va de pratique au quotidien d'acheter des produits jetables, comme on dit, pour les distributions des mets, jusqu'au voyage à la Mecque. Donc, au même moment qu'on parle des Iraniens qui partent à Antalya ou à Dubaï, il faut dire qu'ils partent énormément en voyage religieux. Donc, il y a à peu près 2 à 3 millions d'Iraniens par an qui voyagent sur les sites religieux, que ce soit en Irak. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. En Syrie, jusqu'à il y a 2 ans avant la crise, 2 ans et demi avant la crise, et bien sûr en Arabie Saoudite. Donc ils consomment, c'est une société de consommation, on peut expliquer aussi par des crises qu'a traversé cette société. On dit toujours une société en crise, en mal-être à cause de la guerre, etc., consomme plus. Mais les Iraniens l'expliquent aussi d'une autre façon qui est intéressant, c'est nous n'avons rien d'autre. Donc puisque nous n'avons rien d'autre, il faut maintenant se lancer, peut-être se rassurer, se satisfaire par le biais de la consommation. Mais une consommation qui s'est généralisée, donc il n'y a pas une consommation de terrain est une consommation des petites villes. Donc on peut dire que le mode de consommation s'impose, ça crée une certaine homogénéité nationale, puisque des gens consomment via tout ce qui est finalement les moyens de communication, ça permet aux gens de consommer. Donc aujourd'hui, si on peut prendre une jeune terranaise, donc les voitures, on vient d'en parler, les mobiles, c'est vraiment le nec plus ultra, vous avez un mobile, vous existez, donc vous consommez. Les produits cosmétiques, vous ne trouvez pas un visage de belle iranienne sans la touche, super couche de maquillage superposée. Mais il y a aussi les travers. Vous m'avez dit, vous avez invité quelqu'un qui a eu un déboire à cause des produits d'importation des pharmaceutiques. Enfin, je crois les laboratoires de médecine. Mais il y a les déboires parce que les Chinois nous importent tout ce qui est les contrefaçons possibles et imaginables de tous ces produits cosmétiques. On peut parfumerie, enfin, les produits de maquillage, mais aussi les ustensiles de ménage, de cuisine, etc. Donc, le contre-effet de ça, le mauvais côté de ça, c'est qu'effectivement, les Terranais consomment ce qui n'est pas forcément adapté, ce qui n'a pas été sous contrôle médical. Et donc, c'est un véritable désastre qui crée également le désastre environnemental.
Est-ce que nous sommes aussi dans l'influence iranienne future à venir, avec cette consommation qui va augmenter, avec ces Iraniens qui partiront peut-être plus en voyage, qui iront plus encore faire du tourisme, etc. Parce que là, il y a une influence dans l'autre sens.
Il y a les Iraniens d'ici qui partiront
vers l'Iran. Non, les Iraniens qui vivent dans le pays.
Il y a 7 millions d'Iraniens, 6 à 7 millions, c'est un peu les chiffres plus ou moins officiels, des Iraniens finalement qui sont entre Iran et les pays étrangers. Donc, à peu près 4 millions qui sont installés, mais qui ne cessent de voyager, finalement, entre l'Iran. Donc, évidemment, je crois que l'influence de ces échanges fait qu'on n'a pas l'impression qu'on va en Iran, qu'on est dans un pays qui a été sous embargo. Quand vous allez dans un magasin, vous n'avez pas une idée que vous allez dans un pays qui a vécu sous embargo, mais à ne pas oublier qu'il y a une bonne partie de la population qui souffre, puisqu'il n'a pas les moyens de se donner l'achat de ces produits, ce qui fait qu'ils vont dans les produits de contrefaçon, qui soient moins chers, donc plutôt compétitifs. Mais en même temps, je crois que ces embargos ou ces sanctions ont aussi créé le contre-effet qui est des Iraniens sont beaucoup plus autonomes aujourd'hui. Donc autonomes pour leur importation par rapport à l'Europe, puisqu'ils ont trouvé d'autres marchés, mais autonomes aussi, la dévaluation de l'argent a permis aux Iraniens de produire, les PME étaient beaucoup plus florissants en matière de production et d'exportation, effectivement.
Archie Nazarine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin radiologue, vous travaillez à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Et avec vous, on peut aborder le secteur notamment médical, tous les enjeux, bien sûr, économiques derrière. Mais d'abord, avant tout, vous avez une histoire personnelle. C'est pour vous, la problématique de matériel médical, ça a un sens particulier.
C'est que j'étais déjà sensibilisé par les différents amis ou les membres de famille qui manquaient de médicaments, notamment des produits de chimiothérapie concernant aussi les enfants, etc., et qui me demandaient souvent de leur procurer ça. Et c'était presque le quotidien pendant un moment, le temps que les choses s'organisent un peu mieux, mais juste un peu mieux, parce que les produits manquaient, je le savais. Et c'est vrai que plus récemment, il y a 4 mois, en fait, j'ai mon frère qui est tombé malade et
en Iran
et qui est décédé. Et les services de réanimation, je les ai vus de près, comment ils travaillaient et les produits qui manquaient. C'est vrai que quand on avait besoin d'un produit, un cathéter de dialyse, il fallait envoyer quelqu'un chercher en scooter et en mobylette au marché noir pour essayer de trouver.
C'est ce que vous avez fait, vous.
Un cathéter, oui, c'est ce qu'on envoyait chercher tous les jours dès qu'il y avait un médicament. On nous le demandait le matin, le temps de le trouver, c'était au marché noir, c'était le soir, on savait même pas quel produit, donc on se satisfaisait de ce qu'on trouvait, on trouvait pas forcément le produit qui était adapté.
Vous avez essayé de soigner votre frère, vous-même médecin iranien, sur place, en cherchant les produits, et malheureusement...
On essaye de ne pas trop intervenir, forcément.
Ouais, mais, ça, c'est le médecin mais bon, qui parle, mais le frère...
Mais après, il faut faire les choses, donc c'est vrai qu'on était toute la famille très active, et en fait, c'est la vie quotidienne des gens, en fait, qui ont quelqu'un... Moi, étant médecin, en plus, j'avais beaucoup plus de possibilités de trouver ce genre de matériel, mais c'était quand même difficile.
Et malheureusement, ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas suffi.
Votre frère est décédé.
Tout à fait, oui.
Nous allons revenir dans un instant, bien évidemment, avec vous tous, sur cette économie iranienne qui doit redécoller, et son rôle, dans un instant. En attendant, on se retrouve dans quelques minutes, donc, parce qu'il y a le journal, sur RFI, la radio du monde.
Géopolitique, Daniel Grillon.
Retour En géopolitique, l'Iran a la soif de consommer et quelle stratégie tant économique que diplomatique. Je vous rappelle nos invités aujourd'hui. Feridoun Kavan, économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Paris 5. Sébastien Reynaud, qui vit en Iran depuis des années et qui est chercheur associé au CNRS. Fariba Adelka, anthropologue, directrice de recherche au Centre d'études de relations internationales. Et Arshid Azarine, médecin iranien, travaillant en France. Il y a quelques minutes, vous nous disiez, j'ai pas pu sauver mon frère. Il y a un enjeu de santé publique, mais derrière, il y a des enjeux colossaux en termes d'équipements médicaux.
Oui, tout à fait. Il y a les équipements qui manquent et quand on peut pas avoir les équipements, parce qu'il y a certaines formations de médecins aussi où les équipements techniques doivent être là. Et si ces produits sont américains et qu'on peut pas voir sur place, on peut pas former les médecins non plus. Donc ça entrave aussi la formation des médecins sur certains produits techniques sur lesquels ils doivent se débrouiller un peu et improviser. Donc il y a ce côté-là aussi. Il y a l'utilité technique de l'appareil même, et puis il y a la formation qui ne se fait pas parce que ce côté-là, on ne voit pas.
Alors, on bascule là dans le phénomène des élites iraniennes, qu'elles soient médecins, qu'elles soient chefs d'entreprise. Je vous pose la question à tous. Là aussi, est-ce que l'Iran peut avoir la tentation de choisir les pays dans lesquels on va envoyer ces élites faire des études et là aussi s'en servir comme un levier, Sébastien Reynaud?
Alors, l'Iran envoie ses élites déjà depuis longtemps faire ses études un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas attendu les sanctions pour former leurs élites. On les voit dans toutes les universités étrangères. Il y a toujours des Iraniens qui sont toujours en relation avec leurs familles et leurs amis sur place à Téhéran. Donc, ils sont aux États-Unis pour la plupart. Hein. Les relations académiques entre l'Iran et les États-Unis n'ont pas cessé avec la révolution. Hein. Il y a des séminaires qui sont organisés aux États-Unis avec des chercheurs qui vont de Téhéran et qui vont participer aux séminaires de recherche dans les différentes villes américaines. Donc là, il y a vraiment une élite iranienne qui est très internationale. C'est un pays très international. Hein. Moi, n'importe quel chauffeur de taxi vous racontera qu'il a une tante aux États-Unis, en Allemagne, en Norvège ou à Paris. C'est-à-dire que avec la révolution où finalement beaucoup de gens ont quitté le pays, ils se retrouvent tous à avoir un lien familial avec une personne qui vit à l'étranger. Donc c'est un pays qui est très ouvert sur le monde. Hein. On donne toujours une image de l'Iran fermé avec les sanctions, etc. Mais avec les nouveaux moyens de communication, les nouveaux moyens de se déplacer, l'Iran, enfin les Iraniens et les Iraniennes sont très ouverts sur, savent exactement ce qui se passe en Europe, savent très bien ce qui se passe aux États-Unis. Et alors il y a plusieurs pays qui ont fait le choix de l'Iran, l'Allemagne, la Suède ou la Norvège, je ne sais plus trop bien, qui a beaucoup, une grande élite iranienne. Nous en France, on a un peu coupé les ponts ces dernières années, malheureusement, avec l'Iran. Il n'y a pas eu une volonté politique, si vous voulez, de maintenir des relations diplomatiques et des relations culturelles, scientifiques avec l'Iran. Et ça, dans tous les domaines, on en pâtit. Hein, depuis 10 ans que les relations diplomatiques et économiques sont rompues, et surtout culturelles, où la France avait vraiment un poids très important. On peut situer, avec l'élection de Nicolas Sarkozy notamment, vraiment une rupture des liens ancestraux qu'il existe entre la France et l'Iran. Et maintenant, c'est plutôt d'autres pays qui ont pris la relève, comme l'Allemagne ou des pays nordiques.
L'Allemagne qui, au passage, a été le premier pays à envoyer son ministre, en l'occurrence, ministre de l'Industrie, et avec centaines de chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise français y seront en septembre, avec une délégation du MEDEF.
Lors de l'investiture du président Rouhani, l'Allemagne, l'Angleterre ont envoyé des anciens ministres des Affaires étrangères pour féliciter le président Rouhani de son élection. La France s'y est opposée. Il y a Dominique de Villepin qui a voulu se rendre en Iran pour cette occasion-là. Il a eu une fin de non-recevoir de la part du Quai d'Orsay.
Fariba Adelka.
Oui, comme disait Sébastien Reynaud, c'est vraiment l'handicap politique. Les gens qui ont décidé effectivement couper ces relations politiquement pour des bonnes raisons, voilà. Pour les bonnes ou pour des mauvaises raisons. Mais je crois qu'à cela, il faut ajouter quand même, la France a fait le choix entre ses bases militaires dans le Golfe et ses relations avec l'Arabie Saoudite. Et l'Iran a un mauvais choix qui a coûté très cher pour l'industrie de Peugeot, qui effectivement aujourd'hui est en train de peiner de se réinsérer dans le marché iranien, que les Iraniens jouent au petit jeu aujourd'hui, voilà, un peu se venger parce que la rupture, parce que peut-être la relation avec la France qui s'est un peu détériorée. Donc d'une certaine façon, le mauvais petit jeu iranien va coûter encore gros pour les industries françaises.
Feridoun Kavan, vous qui êtes à la fois économiste et iranien, je le rappelle, La question peut paraître comme ça, mais en termes d'influence, est-ce qu'on peut s'attendre à un jour voir l'Iran, comme le Qatar, acheter un club comme le Paris Saint-Germain, ou peut-être l'Olympique de Marseille, pour de l'influence, voire investir dans l'art, voire investir massivement?
Vous savez, c'était le cas avant la révolution islamique. L'Iran investissait dans le monde entier, en quelque sorte, en Afrique du Sud, comme en France. Et aujourd'hui, justement, on arrive à la conclusion, en ce qui concerne l'économie iranienne, qu'il ne faut pas injecter l'argent du pétrole entièrement dans les circuits économiques iraniens. Il faut garder une partie à l'étranger parce que injecter de l'argent, les économistes appellent cela la maladie hollandaise. Ça veut dire cela déclenche l'inflation, la perte de la compétitivité et on veut aller vers la diversification.
Alors qu'est-ce que veulent faire les Iraniens? Ils veulent investir dans quoi? Dans du football, dans des tableaux, dans quoi ils veulent investir?
Écoutez, pour l'instant, je n'en sais pas.
Ou dans quoi ils investissaient avant et ils pourraient aller voir.
Alors avant, c'était en France dans l'Eurodif par exemple et en Afrique du Sud par exemple dans les raffineries. Ça pourrait encore être le cas, notamment en ce qui concerne l'industrie pétrolière à l'étranger, par exemple les raffineries à l'étranger, ou dans certaines sociétés occidentales pouvant avoir une influence par la suite dans les domaines intéressants, l'Iran.
Stratégique.
Et dans les là, domaines stratégiques intéressants, l'Iran.
Dans l'influence.
Cela étant dit, les besoins sont tellement énormes en ce moment en Iran, dans divers domaines, parce que c'est un pays qui a besoin d'investir dans l'infrastructure, dans l'hôtellerie pour le tourisme, dans l'industrie pharmaceutique, dans énormément de domaines, dans, disons, le transport aérien. Et par conséquent, je pense que pour l'instant, on ne pense pas encore à investir
encore
à l'étranger.
Mais il leur faut combien de temps? Il leur faut 10 ans pour commencer à investir? Investir et acheter des entreprises
Une période relativement longue, notamment si l'Iran parvient à devenir un grand pays exportateur du gaz, ce qui malheureusement n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors c'est à ce moment-là qu'on pourrait parler effectivement d'une forte, disons, disponibilité iranienne pour investir probablement ailleurs.
Sébastien Agneau.
Alors je crois que faut pas comparer l'Iran avec les pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui sont sur des investissements assez bling-bling hein, finalement.
Mais d'influence.
On fait de l'Arabie Saoudite un partenaire, un ami, alors que bon, c'est un pays qui a quand même pas mal de casseroles au niveau du terrorisme. On l'oublie complètement. Pour répondre à votre question, à l'époque des sanctions, je me souviens quand Peugeot avait des grandes difficultés économiques, c'était en 2012, beaucoup d'équipementiers de Peugeot étaient à l'article de la mort, ils étaient prêts à déposer le bilan, et l'Iran avait proposé de racheter des sociétés en France, chez les équipementiers automobiles. Ça n'avait pas été accepté, parce que, toujours pareil, on avait un groupe de néo-conservateurs au niveau du Quai d'Orsay qui bloquait tout investissement iranien sur le sol français, mais il y avait beaucoup de propositions iraniennes, et ça, je crois que si investissement il y a à l'étranger, ce sera des investissements industriels. Ce sera vraiment pour créer des partenariats industriels. Peugeot avait des difficultés, les équipementiers avaient des difficultés, des sociétés iraniennes qui étaient sur des mêmes technologies, qui étaient sur des mêmes savoir-faire et qui voulaient se rapprocher des entreprises françaises, avaient proposé des plans d'aide pour les équipementiers automobiles. Donc là, je crois que l'Iran a le potentiel de devenir réellement un partenaire industriel de la France, plus qu'un partenaire économique et commercial.
Et pardonnez-moi, je voudrais seulement ajouter que durant ces dernières années, l'Iran a effectivement investi aussi à l'étranger, mais de très mauvais investissements. À l'époque du président Ahmadinejad, durant 8 ans, l'Iran investissait par exemple au Venezuela. Il y a des investissements dans l'industrie automobile au Venezuela, ainsi que notamment dans le bâtiment. Il y a des investissements iraniens en Syrie. Pas mal d'investissements iraniens en Syrie.
Afrique.
Il y a des investissements en Irak. Donc maintenant, on veut sortir de ce cadre idéologique et donc probablement parvenir. Aujourd'hui, on peut véritablement espérer. Et donc, on constate,
c'est ça, ouais.
Voilà, un tournant dans la diplomatie au sens large et surtout dans la diplomatie économique iranienne.
Et ça sera bien donc le grand pas vers cette influence nouvelle qui passe par l'économie, donc par l'essentiel finalement dans toutes nos sociétés modernes.
Oui, il faut aussi savoir que les Iraniens ont vraiment fait, si vous voulez, ils ont eu leur leçon de ces années des sanctions et ils ne sont pas prêts de se lancer un peu tous azimuts comme peut-être ils étaient dans le passé et qu'effectivement ils ont énormément changé. La question aujourd'hui c'est cette gestion des avoirs iraniens bloqués à l'étranger, ce qui était impressionnant le jour de l'accord. On attendait un peu la crèche boursière ou alors un peu propos de détériorisation encore de la monnaie iranienne. Pas du tout. C'était, la situation était absolument très, très bien gérée. Le dollar n'a ni monté ni descendu. Le marché était hésitant le matin, mais l'après-midi, tout a été repris. Et qu'aujourd'hui, la Banque centrale, elle a mis la main sur ses avoirs iraniens en disant qu'effectivement, on ne va pas distribuer cette somme aujourd'hui via l'importation à nouveau dans la société. Donc, ils veulent avoir un véritable politique économique. C'est ça, peut-être, la leçon des négociations. Mais pour les Français qui veulent travailler avec les Iraniens, c'est aussi ça. Ça veut dire les Iraniens avec qui on a interrompu nos relations il y a 12 ans sont plus du tout les mêmes. D'abord en matière de formation, ensuite en matière d'autonomie, et puis aujourd'hui, leur richesse, ils sont riches. C'est un pays qui a énormément souffert des sanctions, mais c'est un pays qui a énormément de moyens. Son économie est encore forte, il est en matière de gaz et de pétrole. Donc il a des moyens à investir. Donc effectivement, ils ne veulent absolument pas que ce soit un pays dans lequel on va investir pour pouvoir gagner. Donc, bon. Ils veulent plutôt s'associer à ces investissements.
Ces fameux avoirs iraniens, en gros, hein, 150 milliards de dollars, hein, voilà, la cassette disponible immédiatement, en attendant d'ailleurs les ressources du gaz et du pétrole à venir. Ferhadoun, avant, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voudrais dire que l'Iran, à l'heure actuelle, dispose d'une véritable école nationale dans le domaine de la science économique. C'est-à-dire, nous avons de très, très bons économistes. Vraiment, moi, lorsque je lis la presse économique iranienne, je trouve que c'est une presse de très, très bonne qualité, avec, disons, les mêmes théories, les mêmes argumentations, les mêmes conflits entre les écoles que l'on trouve probablement à Paris, à Ankara ou dans les grandes villes. Et ces économistes contribuent énormément un changement de cap de l'économie iranienne et à son insertion dans l'économie mondiale. Notamment, il y a à l'heure actuelle une très forte pression de la part des économistes, des universitaires, des experts sur le gouvernement de M. Rouhani pour, disons, faire en sorte que l'Iran puisse faire partie le plus rapidement possible de l'Organisation mondiale du commerce.
Rouhani, le président, qui a reçu une invitation personnelle portée par Laurent Fabius de François Hollande pour venir en visite officielle en France. Sébastien Ragnot.
Oui, je voulais rebondir sur ce qui vient de dire. Oui, en effet, il y a des très bons économistes. Et la situation économique du pays en ce moment, si elle est telle qu'elle est, il y a les sanctions, mais faut se souvenir qu'il y a aussi 8 ans de présidence Ahmadinejad, qui, lui, a mis les économistes au placard. Il a décidé qu'il savait mieux l'économie que les économistes eux-mêmes, et il n'a pas du tout écouté les avertissements qui lui ont été faits. Donc, c'est extrêmement difficile, si vous voulez, de déceler quelle est la part des sanctions et quelle est la part de la politique désastreuse d'Ahmadinejad sur l'économie iranienne dans la situation actuelle du pays.
En tout cas, ce que je retiens en vous écoutant, en tout cas, c'est un géant économique qui s'est endormi et qui va se réveiller, hein, tant dans son influence qu'autre. Vous parliez des intérêts tout à l'heure, madame. Vous disiez les Iraniens ne sont pas forcément prêts à ce qu'on vienne investir chez eux.
Oui, bon, effectivement, je crois qu'il faut dire qu'il y a plusieurs...
Parce que
plusieurs
gagner des parts de marché, c'est une chose, mais oui. Acheter des entreprises iraniennes, ça, c'est aussi quelque chose de très important.
Oui, mais c'est aussi dû aux compétitions internes, si vous voulez. On a laissé M. Rouhani de négocier, donc gagner sur cet aspect, mais en même temps, on ne va pas lui laisser de récupérer tous les gains. Donc la compétition aujourd'hui entre les clans qui sont ouverts les uns sur l'Europe, les autres sur l'Asie, et puis l'inconnu, parce que finalement, les sanctions ont eu c'était une véritable rente, on profitait non pas seulement aux agents de l'État, mais aussi à d'autres réseaux financiers, réseaux bancaires, qui sont aujourd'hui, ils ont eu leur autonomie financière, et qui veulent maintenant se blanchir en se lançant dans les élections.
Et
on ne sait pas de quoi ils sont capables et de quoi ils ont envie non plus.
Vous parlez de ces luttes d'influence au sommet. Les Pasdaran, les gardiens de la révolution. On dit qu'ils contrôlent une grande partie des entreprises publiques ou parapubliques. Eux, quel sera leur rôle?
Alors, effectivement, c'est une des grandes difficultés à l'heure actuelle sur la scène iranienne. C'est-à-dire que, effectivement, on parle de l'Iran comme un pays pouvant devenir émergent, mais en même temps, il ne faut pas oublier les difficultés sur le plan interne, notamment cette présence massive des Pasdarans sur la scène économique, ainsi que d'autres réseaux proche des religieux, du pouvoir. Et aujourd'hui, on peut parler effectivement d'une économie dont 80% est sous la domination de l'État ou des organisations parapubliques comme les Pasdarans. Alors, est-ce que les Pasdarans vont s'opposer à l'entrée des investissements internationaux en Iran? Pas sûr, parce qu'il y a une partie des entreprises appartenant aux Pasdarans qui, elles, ces entreprises veulent entrer en négociation avec l'Occident, un peu, si vous voulez, comme ce qui s'est passé en Chine, avec tous les dirigeants communistes qui, du jour au lendemain, ont décidé de s'ouvrir et de devenir capitalistes.
Sans pour autant le dire, mais en le faisant franchement.
Je pense que les organisations appartenant au Pastaran ne sont pas forcément hostiles à une ouverture de l'Iran.
Le poids, la mainmise des Pasdaran dans l'économie iranienne, il faut quand même la relativiser. Enfin, faut la relativiser. C'est-à-dire, faut l'expliquer par le fait que l'Iran était quand même en guerre contre le reste du monde. C'est-à-dire que c'est finalement une décision finalement assez gaulliste de mettre des militaires sur des pans entiers de l'économie et de l'industrie iranienne lorsque pendant 10 ans vous vous retrouvez en guerre face au reste du monde. Cette décision de mettre des Pasdaran a été la conséquence directe des sanctions contre l'Iran, c'est-à-dire que voilà, quand plus rien ne fonctionne, quand le pays est isolé par le reste du monde et quand on veut faire valoir sa parole et sur la scène internationale, la décision a été prise de mettre des Pasdaran sur notamment l'industrie de l'énergie, etc. Mais je crois que d'ailleurs il y a des débats en ce moment qui sont très intenses en ce moment dans la société iranienne d'aujourd'hui, c'est que cette présence des Pasdaran, elle était la conséquence des sanctions. Maintenant qu'il y a plus de sanctions, les débats en général tendent, alors est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver, ça c'est une autre question, mais les réformateurs et les modérés cherchent justement à remettre les Pasdaran dans leurs casernes et réouvrir, si vous voulez,
ce qui ne serait pas très facile.
Ce qui va pas être facile, mais ce qui peut être fait aussi. Hein.
Fariba Adelka.
Oui, je serais plutôt de côté de Sébastien Renaud, mais je crois que c'est un véritable problème sur lequel a mis l'accent Fejdoune Khovan également. L'Iran, si vous voulez, la salade est beaucoup plus mixte. Les gens qui ont profité de la rente sont beaucoup plus diversifiés qu'on le pense. Et justement, si c'était collé, les gardiens, peut-être le contrôle des gardiens aurait été beaucoup plus facile pour l'État. L'État aujourd'hui se sent un peu menacé par des réseaux qu'il ne peut pas contrôler. Or, les réseaux des gardiens font partie de la maisonnée, donc peut-être plus facile à contrôler. Ce sont par des réseaux financiers ou réseaux bancaires qui sont beaucoup plus autonomes par rapport à l'État. Mais ceci étant dit, c'est un savoir-faire sur lequel mettait l'accent Sébastien Renaud. Ils ont un savoir-faire, les gardiens. Mmh. Mais en ayant ce savoir-faire, ils se sont lancés dans les pays de la région. Donc, ils sont de moins en moins gardiens et de plus en plus experts, hommes d'affaires, finalement. Les constructions aujourd'hui en Afghanistan, des barrages, des routes, les constructions dans le pays de l'Irak, de l'infrastructure. Donc, c'est véritablement, ce sont devenus des véritables holdings.
Ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts. Ils font des ponts, des barrages dans des situations.
Ils ont un réel savoir-faire
en matière de construction.
Oui, à mon avis, les Français auraient tort d'aller voir des ministres. Ils devraient aller voir les entrepreneurs qui sont peut-être par ailleurs des gardiens de la Révolution, qu'ils ont été dans le passé, puisque tout le monde était, puisqu'il y avait une guerre de toute façon. Mais de voir peut-être ces entrepreneurs qui ont leur mot à dire. En Iran, il y a une véritable politique des directeurs qui ont leur mot à dire. À la rigueur, si on voit mal les directeurs comme les portiers ici en France devant une porte, on n'arriverait pas à convaincre un ministre, tout simplement. Donc, ils sont forts. Économiquement, ils sont forts, autonomes aujourd'hui par leur savoir-faire.
Très rapidement, en quelques secondes, Archid Azarine, je voudrais terminer avec vous, le médecin iranien travaillant en France. Vous pensez voir arriver vos amis iraniens, votre famille iranienne, dans cette influence, dans cette ouverture-là? Ça vous fait plaisir, ça?
Oui, tout à fait. Ma sœur déjà a une école bilingue française à Téhéran, donc elle est complètement dans
cette ouverture. Elle est déjà dans le business.
Ouverture.
Ouais, dans cette ouverture.
Mais... c'est vrai que, par exemple, les sociétés savantes françaises en médecine, ça fait longtemps qu'ils essayent de faire des échanges. Donc, on essayait d'organiser des congrès en Iran. Quand ils allaient sur le site, ils voyaient que c'était écrit « pays à éviter » sur le site de ministère des Affaires étrangères. Donc, à la fin, toutes les sociétés savantes boycottaient en disant « non, finalement, ça se fera pas ». Mais il y a beaucoup d'échanges qui sont en route.
Merci. Mesdames, messieurs, merci aux auditeurs d'RFI d'avoir partagé ces réflexions sur l'Iran et son économie. Merci à Nathalie Laporte, efficace réalisatrice de cette émission. Merci à Véronique Durand, tout aussi efficace dans la préparation de ce dossier.